Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
À propos de la foi chrétienne, il demeure comme des interdits. Annoncer la foi chrétienne aux musulmans en est un, comme si par un souci bien légitime de délicatesse et de respect, une telle démarche avait quelque chose de peu évangélique, comme si elle réveillait le spectre de guerre de religion, d'excès dramatique du passé. Mais si l'amitié est bien le préalable à tout dialogue en vérité, l'amitié ne pousse-t-elle pas à vouloir partager ses trésors les plus secrets? C'est en tout cas la conviction des forums Jésus-Messie, ces forums organisés un peu partout en France par des chrétiens et réunissant des personnes sensibles à cette question, dont des convertis de l'islam. Une émission Vivante Église zoom sur les forums Jésus-Messie ce matin. Donc cette émission en vue d'un prochain forum de ce nom sur le thème « Comment évangéliser les musulmans quand on se sent faible ?» Ça sera le 9 mars prochain à Pau dans notre région. Nous sommes ce matin pour en parler avec Myriam qui est une convertie de l'islam au christianisme. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Voilà, parlez bien près du combiné, on vous entend un petit peu loin. Christian Mira, qui est un retraité de l'éducation nationale et collaborateur du fondateur de l'association Notre-Dame de Kabylie, bonjour.
Bonjour.
Voilà, parlez bien près du micro aussi. Et Xavier Allois, cofondateur de ces forums Jésus-Messie, bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel.
Voilà, parlez tous près de vos combinés, de vos téléphones, et tout se passera bien. On va commencer avec vous Myriam, puisque vous nous faites l'amitié d'être présent au début de cette émission. Je l'ai dit, vous êtes donc une convertie de l'islam, on trouve votre témoignage sur internet. On va donc commencer un petit peu par avoir votre récit de vie. Je vous proposais un peu de fonctionner par séquence, c'est-à-dire de nous aider, nous qui sommes une radio chrétienne, et donc on imagine la plus grande partie des auditeurs sont des chrétiens, soit pratiquants ou non pratiquants. On ne connaît pas bien l'islam de l'intérieur. Vous êtes né donc dans une famille musulmane, vous avez vécu en France mais aussi au Maroc, racontez-vous dans votre témoignage. Quelle était l'ambiance religieuse de votre famille?
Alors les premières années en France, il n'y avait pas vraiment de pratique, c'était des principes comme on peut, en trouver aujourd'hui, ne pas manger de porc, se reconnaître musulman, et se reconnaître comme appartenant à la famille musulmane, au monde musulman. Nous sommes musulmans, nous ne sommes pas chrétiens ou athées. On se reconnaît, on a une identité musulmane.
Voilà, mais ça veut dire que votre famille avait une pratique religieuse quand même. Quelle était la pratique religieuse de votre famille?
De souvenirs assez légères, la prière qu'on n'a pas pratiquée quand on était petit. Le ramadan non plus, j'avais moins de 10 ans. Peut-être après, on en parlera peut-être juste après, pour la période où j'ai vécu au Maroc. Soyez précis.
Oui, j'essaye d'être précis et je vous écoute en même temps. Oui. Bref.
Alors, c'est quand on a vécu au Maroc fin des années 80, début 90, l'ambiance a complètement changé. On a été plongé dans un monde, une culture arabo-berbéro-musulmane, et encore, je trouve, assez francisée, parce que la moitié des émissions télévisées, ce sont des films américains, français. La langue française est très, très présente dans notre culture. L'islam, en intégrant la mosquée, mais on l'a connu vraiment, la pratique de l'islam, au retour ici en France, les années 90, la présence des Syriens, Égyptiens, tout ce mélange dans les mosquées où on a différents courants, je dirais, de l'islam qui nous viennent de l'Orient. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on a reconnu, ce qu'on a connu dans notre enfance ou pendant nos vacances scolaires au Maroc.
Donc si j'essaie de bien comprendre, en fait, donc vous étiez donc d'une famille musulmane, plus ou moins pratiquante, on va dire, de culture musulmane, mais vous avez, à la faveur donc d'un séjour au Maroc et après, quand vous êtes revenu en France, entrevu ce qu'était l'islam dur, c'est ça?
Oui, une pratique assez rigide. C'est passé, arrivé en France, on n'a pas vraiment eu de période d'adaptation à la culture française. La présence, mes parents, quand ils ont intégré les mosquées, moi j'ai découvert un nouveau monde. un nouveau monde, donc des Syriens, des Égyptiens, des gens de l'Orient qui ont une pratique, un regard sur l'islam, on va dire, selon eux, plus noble, plus racé, qui tient vraiment du noyau de l'islam, des origines,
Alors
de l'islam, des bases.
qu'est-ce que ça veut dire
Oui.
un islam dur concrètement? Vous parlez dans votre
Enfin,
témoignage par exemple de lever de nuit pendant le Ramadan, c'est expliquez-nous.
c'est un respect rigide, une pratique très rigide de cette religion. Les cinq prières en temps, c'est-à-dire si celle de l'aube, elle est à 5 h du matin ou 4 h du matin, donc on se lève à 3 h 30, on commence à faire ses ablutions et puis on se prépare, on fait sa prière. La tenue, le comportement aussi, ne pas regarder l'homme, la femme n'a pas regardé l'homme dans les yeux, n'a pas une forme d'affront. Il y a des rites, pas des rites, mais une forme de comportement, baisser les yeux, ne pas marcher devant l'homme, ne pas trop s'approcher de lui, écouter, faire, dans le cadre du mariage, être totalement soumise à l'homme. Bon, c'est comment dire, une pression, enfin des obligations de comportement à
Alors,
faire, comportement naturel de la personne.
voilà, donc vous racontez dans votre témoignage donc vous avez été marié, combien il est
Oui.
important dans l'islam, ou en tout cas peut-être auprès de certains musulmans, donc d'être vierge et fertile. Je voulais quand même, avant que peut-être on avance et qu'on parle de votre conversion, est-ce que vous avez quand
Oui.
même des souvenirs heureux et positifs, pour ne pas être trop caricatural, de cette pratique de l'islam dans le cadre de votre famille, pour voilà, faire droit aux belles choses qu'il peut y avoir dans cette religion.
Comment dirais-je? Ma mère avait une pratique très spirituelle, c'est-à-dire que elle interprétait les songes. Voilà, quand on se levait le matin, maman, j'ai rêvé ci, j'ai rêvé ça, et effectivement, elle avait une lecture spirituelle de ses visions qu'on retrouve dans les livres de Daniel. Elle m'a parlé, c'est la première qui m'a fait connaître Daniel, alors qu'il n'est pas reconnu du tout du Coran. Un lien à Dieu qui est honnête, droit, direct, ne pas avoir peur de le demander, de le solliciter, de pleurer ses souffrances dans le secret. Dans le secret, elle m'a appris à l'invoquer par des formules, des prières ou par le cœur. C'est ce que j'en retiens. C'est un héritage qui me vient de ma mère. Ça doit être des origines sémites, certainement. Donc,
Voilà
moi, ce lien fort à Dieu.
quelques éléments positifs et puis ce lien fort à Dieu. Alors dans votre
Voilà.
témoin.
Entre parenthèses, excusez-moi, je vous coupe, mais vraiment ne pas avoir peur de quoi que ce soit, tant que ça vient de Dieu, c'est que banco, enfin, c'est qu'il met le paquet. Il y a une confiance totale en Dieu. Il n'y a rien à
Alors,
craindre.
si on continue dans votre témoignage, vous racontez que donc vous êtes marié et puis votre mari vous lance comment dire comme un défi de passer le concours de police d'une manière on va dire peu aimable en disant au moins ça peut-être tu serviras à quelque chose et tu pourras me faire sauter les PV. Vous racontez ça en riant,
Exact,
mais surtout vous avez
exact.
cette phrase: Jésus m'a donné rendez-vous à l'école de police. Alors
Oui.
expliquez-nous comment s'est passée votre conversion.
Ça va être un peu long,
Alors,
mais
il faut faire court, hein. On est en direct, on est à la
je vais
radio, donc
essayer.
je compte sur vous pour faire court.
Je vais essayer. Donc il me lance ce défi. Je ne prends pas l'affaire au sérieux, je ne la prends pas pour moi, c'est-à-dire je ne vais pas faire policier parce que j'ai envie de le faire ou parce que j'y crois, je vais le faire pour lui flanquer à la figure mon résultat de réussite. Il m'a humilié, ben je vais lui rendre humiliation par humiliation. Donc je passe le concours, à ce moment-là, ben je tombe enceinte. Je continue quand même les épreuves écrites, orales, etc. L'épreuve sportive, ben, je ne peux pas. Et j'attends l'accouchement pour repasser les épreuves parce que bon, je suis prête. Entre-temps, bien sûr, je rencontre des gens sympas, des gens bien, qui me montrent un côté positif de cette profession, humain. Donc je passe le concours. Je réussis en 2003. J'intègre l'école de police à Sens en 2004. Donc je garde mes pratiques religieuses. J'y reste fidèle. Bien sûr, en début de scolarité, on nous interdit toute exhibition, toute marque, enfin, religieux, toute appartenance à la religion. On ne parle pas de religion. On ne la pratique pas. Il a dit, voilà, l'école de police, ce n'est pas la synagogue, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la mosquée.
Alors,
donc, vous gardez ça pour chez vous.
Et ce rendez-vous avec Jésus, là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'heure
de... On est en septembre 2004. Je viens d'avoir 25 ans. J'ai mes habitudes. Tous les soirs, avant de dormir, je fais mes prières. Mon Dieu, je t'appartiens. Et je fais mon chapelet, Jésus, enfin non, pas Jésus, je salue Mahomet, Dieu béni, salue Mahomet pour moi. Je prends mes graines, comme ça. Et à un moment, je me dis, pourquoi Mahomet? Pourquoi serait-il plus méritant que les autres prophètes? Il y en a apparemment plus de 300 reconnus dans l'islam. Donc je priais pour, je peux pas dire tous les prophètes, mais ceux qui me viennent à l'esprit plus aisément. Donc je prie pour Adam, Jésus, Marie, Moïse, Abraham, Noé, voilà, tous les prophètes qui sont précités, je prie pour eux. Donc je salue ces prophètes. Et le premier soir, donc je me couche et en sang, je vois Jésus et Marie debout face à moi, les bras tendus, le visage rayonnant, un regard bienveillant qui me dit on est là, il me fait comprendre, nous sommes là. Je le garde dans mon cœur, je dis bon, c'est bon signe. Il répond présent. Je refais la même prière, peut-être 2-3 jours, une semaine après, je revois encore Jésus et Marie. Je dis, mais vous êtes sympa, mais je ne suis pas chrétienne. Moi, si je ne vois pas Mahomet, je n'irai pas au paradis. Je ne comprends pas pourquoi vous insistez. Enfin, c'est bien, mais ce n'est pas vous que j'attends réellement. Je vais être confirmée dans ma religion musulmane. C'est pas, je ne tends pas à être chrétienne ou autre chose. Et je refais la même prière, on arrive à la fin, je pense le 29 septembre là. En songe, je vois que je suis sous terre, un puits, enfin de l'eau devant moi, j'en batte le pas, je me retrouve à remonter ce puits. Et à la surface, je vois, j'entends des louanges, des lumières, ce sont des anges, des présences invisibles mais lumineuses. J'entends des louanges, un chant qui monte à Dieu, quelque chose d'extraordinaire. Tellement c'est beau, c'est puissant, mais c'est doux. C'est particulier, j'entends Marianne. Et je ne m'appelle pas comme ça. Mais je me reconnais dans ce prénom. Je sais que c'est moi. Quelque chose au fond de moi, c'est moi. Je vais vers cette voix et j'arrive, un rouleau de papier qui s'ouvre devant moi, des images. Comme pas une bande dessinée, mais voilà, quelque chose de crayonné, un dessin simple et compréhensible. Je regarde le premier, tu vois Marie qui est enceinte. L'image prend un mouvement, ça bouge, ça parle, l'image parle. Marie qui enfante, cet enfant n'a pas de père.
Alors juste, excusez-moi, avant que vous alliez plus loin, tout ça, c'est quand vous dites c'est en songe, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que c'est un rêve ou c'est un rêve qu'on appelle un songe, comme il est dit parfois dans l'écriture?
Je le vois avec mon cœur, je le vis avec mon âme.
D'accord, mais vous dormez, vous êtes réveillé?
Je ne sais pas.
D'accord.
Je ne sais pas parce que... Au dernier dessin, je me trouve assise et je suis encore en train de lire et de recevoir. Et physiquement, j'ouvre les yeux, mes yeux, je suis assise. Donc, je me surprends comme ça. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me rappelle pas avoir pris ma couverture, découvert ma tête, me lever, regarder ce qui se passe. Non, pas du tout, je suis surprise. Donc,
je
vois ces dessins, je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps. Physiquement, je n'ai pas conscience de ce que mon corps fait.
Alors continuez à décrire du coup cette vision, parce que je crois qu'elle est allée jusqu'à la contemplation de Jésus en croix en tout cas. C'est...
Alors en fait, voilà, Marie qui enfante, ensuite Jésus face à un panier avec 2-3 morceaux de pain, il impose les mains, voilà, il bénit, et le pain se multiplie, il sort du pain à foison de ce panier. Ensuite Jésus face à un malade, il impose les mains au-dessus de la tête, et il ordonne par la pensée aux organes malades de reprendre leurs fonctions, et tout reprend, voilà, là où il y avait destruction, maladie, je ne sais quoi. Eh bien, l'organe, ben, il reprend sa fonction, il refait ce qu'il doit faire par la pensée de Jésus. Ensuite, les 12, Jésus, debout, cette image avec les 12 qui l'entourent, il reçoit cette lumière, l'Esprit Saint, et avec ses bras, sa pensée, etc. Ce rayon de lumière, ben, il se partage en 12, il va vers chacun. Les 12, alors, et les 12 font la même chose. Ils redistribuent cette lumière et cette lumière se multiplie comme ça à l'infini. Je vois le monde embrasé par cette lumière. Ensuite, de l'eau, ça c'est un lac d'eau, un grand lac d'eau. Je vois des gens handicapés, malades, estropiés, toutes sortes de pathologies. Ils entrent dans cette eau comme, bah, je ne sais pas, à la plage. Les gens vont vers la mer. Je vois marcher disparaître sous l'eau parce que bon, ils arrivent au fond. Ils sortent ils continuent leur marche, ils réapparaissent à l'autre côté du lac, ils sont parfaits. Vous savez, quand vous voyez une piste d'athlètes, de footballeurs musclés, rien à dire, ils continuent leur vie. La même trajectoire, ils continuent. Et je finis sur la croix, et Jésus sur la croix, je le vois, je me dis, sors de là, c'est pas possible. Et là, j'ai juste le temps de respirer ce souffle, et Dieu, je reste fixée sur la croix, et je réalise que je suis assise. Je suis assise, les yeux ouverts, la bouche ouverte, les bras tendus, et mon cœur vers mon cœur, toute ma attention est fixée et captivée par cet homme sur cette croix qui souffre, le martyr. En même temps, il m'aime. Voilà, il souffre pour moi, bien sûr pour l'humanité, mais là vraiment c'est un message personnel.
Vous dites qu'à ce moment-là, vous avez eu un coup de foudre, en fait, un coup de foudre d'amour pour Jésus. Expliquez-nous ça.
Je reçois cet amour, oui. Je reçois cet amour, mon cœur le reçoit, je suis frappée par ça. Bien sûr que j'absorbe ça, et mon corps, mon esprit l'intègre, l'accepte et le rend. De la même façon, au moins, comme je le reçois. Je t'aime aussi. Tu es fou d'amour pour moi, mais moi aussi, je veux. Voilà, je l'attendais, je l'espérais depuis l'éternité, depuis que je suis créée, depuis ma conception, depuis un temps indéfini, depuis je ne sais pas. Le début de l'humanité, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas définissable ni dans le temps ni dans l'espace. C'est l'amour que j'ai déjà reçu. C'est comme si je suis déjà créée avec ça. Et là, j'ai un rappel. Je l'ai vécu comme un rappel. J'ai déjà reçu cet amour de Dieu. Mais là, je sais que c'est le Christ qui est ce Dieu-là qui me l'a donné.
Alors, allez-y, finissez. Excusez-moi, allez-y.
Non. Voilà, je me retrouve dans cette force créatrice, dans cet amour. Et en même temps, Jésus sur la croix. Beaucoup de choses, beaucoup de messages. Je lis dans son corps tous ses coups, ses blessures. Je lis aussi dans son esprit une souffrance d'esprit, le cœur qui porte énormément, quelque chose, quelqu'un qui a connu des choses atroces et qui est aussi indéfinissable dans le temps, dans ce qu'il a vécu dans son temps, mais jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, il me transmet comme ça. Je porte énormément de choses.
Myriam, pardon, excusez-moi, c'est très très beau, hein, c'est du coup très délicat de vous interrompre, mais je vois quand même le temps qui passe, puisque Myriam aussi c'est ce prénom donc, que vous avez entendu un peu dans votre cœur, vous avez entendu dans votre cœur alors que ce n'était pas votre prénom à l'époque. Vous avez après donc fait un chemin au sein de l'Église catholique, vous avez demandé le baptême. Je voulais juste que vous nous redisiez pour finir ce que vous avez partagé lors de votre témoignage, je crois, à l'occasion d'un forum Jésus-Messie, un peu le choc qui a été le vôtre quand vous êtes rentré dans l'Église catholique et vous avez eu l'impression que tout le monde était endormi au regard de cette expérience extraordinaire que vous avez faite de l'amour de Dieu.
Eh bien, les jours qui ont suivi cette conversion, j'étais embrasée d'amour. C'est-à-dire que j'avais envie d'embrasser tout le monde et leur dire « Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, Jésus est sauveur, il est là pour vous, c'est un feu d'amour, vous allez réussir tout votre vie spirituelle, ne craignez rien, vivez-le, il est là, il est tout proche. » J'avais envie de dire ça à tout le monde, d'embrasser tout le monde, de pleurer ma joie, de la communiquer au cœur, aux yeux de n'importe qui devant moi, quel qu'il soit. Et j'avais vraiment la foi que dans l'Église catholique ou l'Église du Christ, que je retrouverai des gens comme moi qui savent ça, qui vivent ça, parce qu'ils ont reçu le Christ. Et au fur et à mesure que je connais les gens, j'ai des confrontations, je suis heurtée au froid ou à l'incompréhension, ou à l'indifférence. Je n'ai pas compris pourquoi l'embrasement ne touche pas, ce feu n'a pas touché ces gens, ou pourquoi ils ne le manifestent. C'est un peu mon état, oui.
Eh ben merci beaucoup Myriam, on est bien merci beaucoup pour ce très beau témoignage. On est un peu désolé que on vous entendait pas aussi bien qu'on aurait voulu. La connexion téléphonique était pas parfaite, mais voilà, rien n'est parfait en ce monde. On va faire une première pause musicale et puis on va retrouver nos autres invités puisque vous devez nous quitter pour essayer de comprendre en fait ce que vivent les musulmans et en quoi l'évangile peut être une bonne nouvelle aussi pour eux et peut bouleverser leur vie comme elle a bouleversé la vôtre.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin donc zoom sur les forums Jésus-Messie. Pour rappel, ces forums qui sont donc des forums qui sont organisés un petit peu partout en France voilà sur le thème de l'annonce de la bonne nouvelle aux musulmans, la bonne nouvelle du Christ et le titre du prochain forum qui aura lieu le 9 mars à Pau, comment évangéliser les musulmans quand on se sent faible. Autour du plateau, il y avait au début de cette émission Myriam qui est une convertie de l'islam au christianisme, Christian Mira qui est un retraité de l'éducation nationale et collaborateur du fondateur de l'association Notre-Dame de Kabylie, association qui accueille des musulmans donc convertis au christianisme et dont le fondateur est à Paris, et Christian Mera est un de ses disciples, ou en tout cas il l'accompagne dans cette œuvre ici à Toulouse, et Xavier Allois qui est cofondateur des forums Jésus-Messie. Alors avant qu'on aille un petit peu plus loin dans cette compréhension en fait de ce que représente l'annonce de l'évangile pour les musulmans, Xavier Allois, je voulais que vous mettiez un tout petit peu en perspective le témoignage de Myriam qui peut-être en surprendre certains. On a coutume d'entendre dire que les songes ou des révélations mystiques comme celle qu'a eue Myriam sont fréquentes chez les musulmans en France et ailleurs dans le monde.
Oui,
allez-y.
C'est assez fréquent. Ça montre aussi que eh bien, Dieu agit. Donc nous les missionnaires ou nous les chrétiens qui voulons témoigner, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous précède. Dieu nous précède en Galilée.
Voilà, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que ça paraît une évidence pour vous, mais là on reste un peu court avec votre réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça arrive parfois, vous avez beaucoup de témoignages comme ça. Comment accréditer en fait la véracité aussi de ce type de témoignage?
Alors, il y a plusieurs questions. La première, c'est vrai que c'est fréquent, c'est très fréquent, et c'est beaucoup plus fréquent chez les personnes qui viennent de l'islam que chez les autres. Alors pourquoi? Peut-être parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de freins, beaucoup de barrières, mis par la religion musulmane pour, prévenir l'arrivée du christianisme, et du coup Dieu est obligé d'intervenir pour passer ses barrières, hein, pour casser ses verrous. Et voilà, c'est probablement une explication. Maintenant, comment accréditer? Je pense que c'est dans la foi aussi qu'on peut, en écoutant et en connaissant personnellement des convertis, qu'on se rend compte que ce qu'ils disent est vrai. Ils ne peuvent pas inventer. Très souvent, on a des témoignages qui nous montrent que la personne ne peut pas avoir inventé parce qu'elle ne connaissait pas le Jésus miséricordieux qui apparaît en songe. Elle ne connaît pas Saint Thérèse de l'Enfant Jésus qui jette des roses ça, c'est des choses qui sont tellement spécifiques et tellement alors connues des chrétiens, des catholiques, mais inconnues des musulmans. Et donc, quand ils nous décrivent cela sans faire partie d'une église, sans avoir pu connaître cela avant, on ne peut que se rendre à l'évidence qu'on a vraiment eu une intervention de Dieu et que le songe est véridique.
Alors quand vous dites que ça arrive en France, mais ça arrive aussi un peu partout dans le monde, est-ce que vous avez aussi des éléments là-dessus?
Alors, en dehors du monde, en dehors de la France, je ne sais pas, j'ai peu d'informations, enfin un petit peu sur l'Afrique du Nord, mais en France, oui, c'est aussi assez fréquent.
Alors, on va se pencher maintenant, parlez bien près du téléphone, hein, et voilà, et n'oubliez pas que vous êtes en direct. On va maintenant se pencher, donc on s'est dit, entre autres avec Christian Mérin, qu'on allait prendre deux points de la foi musulmane, ou on va dire peut-être de toute existence, et on a essayé de voir en quoi la révélation du message chrétien pouvait être, avait quelque chose de bouleversant pour les musulmans. Le propos et d'essayer de se mettre un petit peu dans la tête de nos frères musulmans et de comprendre un peu de l'intérieur quelle est leur vie de foi. La première question sur laquelle on voulait se pencher, ou première réalité, c'est l'image que l'on a de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous dire, Christian Mérin, quelle est en fait l'image que les musulmans ont de Dieu, et puis on verra après dans un deuxième temps en quoi la révélation chrétienne peut être quelque chose de bouleversant pour un musulman.
Oui, la question qu'est-ce que Dieu ? Et d'autre part, l'autre question associée, avons-nous le même Dieu ? Eh bien, il faut se pencher sur le problème de la révélation vécue dans chacune des deux religions. On commence par l'islam. Alors, il faut voir que pour l'islam, il y a bien sûr transcendance de Dieu, mais pas tout à fait dans le même sens de chrétien ou même judaïque.
Alors expliquez-nous, justement, puisque c'était ma question. Donc en islam, quelle est l'image que l'on a de Dieu ?
Alors il s'agit d'un Dieu, donc d'une transcendance plutôt ombrageuse. Dieu est un tuteur tout-puissant. Et la révélation est conçue comme extérieure à Dieu. Dieu, bien qu'il connaisse l'intimité des êtres, de chaque être, lui n'a aucune relation directe avec l'homme. Il y a une séparation totale entre l'homme et Dieu.
Alors, est-ce que le rapport que les musulmans ont aussi à leurs écritures, donc en l'occurrence au Coran, dit quelque chose justement aussi de cette image qu'ils ont de Dieu ? C'est des choses qu'on entend de temps en temps à cette antenne, hein, parce qu'on fait de temps à autre des émissions sur ce sujet. Entre autres, on a reçu il n'y a pas très longtemps Annie Laurent qui interviendra dans ce forum Jésus-Messie. Mais qu'est-ce que vous pourriez nous redire sur ce sujet ?
Eh bien, justement, en islam, la révélation est pensée comme la transmission d'un message qui ne dit pas ce que Dieu est, mais qui dit ce que Dieu veut. Il y a là une différence déjà essentielle. Tout simplement Dieu, on va l'appeler Allah parce que les notions de Dieu, Allah et Dieu chrétien ou juif, sont tout à fait différentes. Donc Allah a fait descendre son message. Le mot « descendre » est celui qui est utilisé en théologie islamique. Il a fait descendre son message. Il l'a dicté mot à mot à son envoyé qui est Mahomet. Et Mahomet a reçu donc directement mot à mot ce message. Et ce message est un livre que l'on appelle le Coran.
Voilà, on dit aussi que c'est un livre incréé. Donc en tout cas,
incréé,
ça,
oui.
Ça dit une certaine distance entre Dieu, une distance certaine entre Dieu, oui, et l'homme.
C'est un Dieu, c'est un livre qui est dans les cieux, à une place de choix. C'est un livre que connaissait Adam, puis la succession des différents prophètes, dont Jésus, l'avant-dernier, et le reproche qui est fait aux chrétiens à ce sujet, c'est d'avoir falsifié l'évangile, en cachant le fait que, en fait, Dieu a annoncé aussi à Jésus la venue, donc, du dernier prophète qui est le sceau des prophètes, Mahomet.
Alors maintenant, ça sera évidemment plus familier de nos auditeurs, mais c'est afin de remettre en perspective et de voir donc le bouleversement que ça peut représenter pour un musulman. Redites-nous justement quelle est l'image de Dieu dans la religion chrétienne, et puis peut-être aussi ce rapport aux Écritures.
Bon, on va commencer par la Bible hébraïque dans un premier temps, et on va noter que le fait essentiel et le fait premier déjà dans la Bible, et tout simplement, ce n'est pas la prophétie. Ceci vient en second. Le fait essentiel, c'est l'entrée de Dieu dans la vie de l'homme. Et ceci est dû au fait que le message originel a été transmis à un peuple qui est les Hébreux, un minuscule petit peuple que Trémontant désigne comme étant un peuple germinal. Et il a reçu une information, c'est le mot utilisé par en particulier Trémontant, qui est destiné à l'humanité entière.
Alors, quel est ce visage de Dieu qui est révélé? Parce que c'est ça qui est important, c'est que c'est un Dieu qui se révèle comme Père.
Le Dieu se révèle comme Père, surtout au deuxième, au dernier stade de la révélation, qui est donc celle qui est Jésus. Et Dieu Père est beaucoup mieux précisé dans le message du christianisme.
Xavier Allois, est-ce que vous avez un exemple tiré de votre expérience et des nombreuses rencontres que vous avez faites via donc, cette association des forums Jésus-Messie, où le bouleversement que représente l'annonce de la foi chrétienne et donc de ce Dieu qui est un Père est quelque chose de profondément bouleversant pour un musulman?
Oui, alors en écoutant ce que disait Christian, effectivement, je pensais au témoignage de Milena qui insistait sur cette relation particulière que le chrétien a avec Dieu, Dieu qui est Père. Et cette relation, elle est connue dès la première phrase de la prière que Dieu nous enseigne, la prière du Notre Père. C'est Jésus qui nous la donne. Et effectivement, pour Milena, c'était un bouleversement. Elle expliquait que c'est quelque chose qu'elle ne connaissait pas dans l'histoire.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quoi, elle a découvert... Vous vous souvenez plus précisément de l'histoire? C'est qu'un jour, elle est tombée sur un évangile, elle a découvert cette prière et ça l'a bouleversée? Ou quelles étaient un peu les circonstances de cette découverte? Quelles étaient les circonstances?
Alors, j'avoue que je ne sais plus exactement les circonstances. J'avais surtout retenu cette qualité de relation qu'elle évoquait alors presque avec les larmes aux yeux, en nous disant que voilà, c'était quelque chose qu'elle n'imaginait pas.
C'était quelque chose de bouleversant.
S'adresser à Dieu de cette manière.
Voilà. Alors si on avance, l'autre point que l'on voulait souligner, c'est l'idée que l'on peut que l'on a en fait du salut dans l'islam, donc du rapport à la vie éternelle. Et donc même question pédagogique, Christian Mera, vous allez nous expliquer donc dans l'islam quelle est un peu l'idée que l'on a du salut, et puis après dans le christianisme, et puis je redemanderai aussi une histoire à Xavier Allois qui illustre ce bouleversement. Dans l'islam, est-ce que la notion de salut existe? J'ai souvenir d'une émission précédente, en l'occurrence, je crois que c'était avec Annie Laurent, qui nous expliquait qu'en fait, la notion de péché originel n'existe pas en islam. Alors, est-ce qu'on peut parler de salut, dans le fond? Christian Mira.
Il y a, bien sûr, la notion de péché originel est tout à fait étrangère à l'islam. Il y a quand même une certaine idée du salut. Ce salut est surtout lié au fait à une intervention de Dieu, une aide de Dieu, dans des circonstances particulières où l'islam, le destin de la Oumma, la communauté des fidèles, est en jeu. Et Dieu alors se présente, en fait, comme étant celui qui va donner par son aide la victoire à l'islam. Et en particulier, cette idée de Dieu qui donne la victoire correspond à l'un des beaux noms de Dieu que des musulmans égrènent avec un chapelet particulier où il y a le nombre des beaux noms de Dieu.
Et ce nom, en l'occurrence, c'est le Sauveur.
Dans ce cas, non, c'est celui qui donne la victoire.
Celui qui donne la victoire, pardon.
C'est différent.
Oui, pardon.
C'est-à-dire, Dieu donne la victoire à ceux qui sont, qui ont gardé la foi et qui sont fidèles et soumis à la volonté de Dieu.
Alors, quelle vision les musulmans ont après de la vie éternelle? Est-ce que quand on est musulman, que l'on est fidèle, que l'on suit les préceptes que Dieu nous donne, qu'on est un bon musulman, priant, charitable, etc. Est-ce que on est sûr en fait de son salut? Est-ce qu'il y a une angoisse par rapport au salut?
Eh bien, Dieu est tout puissant et c'est lui qui décide au fond, en dernier ressort, de la foi d'un fidèle. La foi étant l'élément central, c'est-à-dire si Dieu juge que le fidèle, durant sa vie, a pratiqué ses commandements et a été fidèle à l'enseignement du prophète de Dieu, eh bien, il a des chances d'accéder au paradis, mais il n'a jamais la certitude, parce que toute décision dans ce domaine n'appartient qu'à Dieu. Et on n'a pas discuté ou jugé ses jugements.
Est-ce à dire qu'il y a une forme d'angoisse aussi par rapport à la vie éternelle chez nombre de musulmans que nous, en fait, chrétiens, on ne mesure pas? J'ai souvenir d'un témoignage du fondateur de la mission Angelus, Jean-Yves Néric, qui parlait de ça et qui disait que voilà, nous, chrétiens, on a du mal à imaginer ça, mais que dans le fond, il y a souvent, particulièrement peut-être chez les musulmans très religieux, une angoisse par rapport à leur salut ou à la vie éternelle. Est-ce que vous accréditez cette thèse?
Tout à fait. Tout à fait.
Alors, même question, ou plutôt, et on va demander à Xavier Allois, qu'est-ce que vous nous raconteriez comme histoire qui illustre, et puis charge peut-être à Christian Mira de mettre en perspective ce témoignage derrière, qui illustre la bonne nouvelle que peut être la révélation chrétienne quand on a ce rapport à Dieu et cette vision du salut ou de la vie éternelle, Xavier Allois?
Oui, je pensais au témoignage de Clément, qui lui racontait que c'est la quête du pardon, la recherche du pardon qui l'a amené à Jésus-Christ. Il est originaire du Liban et une amie chrétienne lui avait dit « Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur ». Et c'est une distinction qu'il ne connaissait pas. Ça l'a amené à s'interroger et ça l'a amené à rechercher le pardon que peut donner le prêtre dans le sacrement de la réconciliation, de la confession. Un pardon qui est personnel et qui est complet pour peu que la personne se confesse, disons, sincèrement et le ferme propos de ne plus, de ne pas recommencer. Et ça, il regrette son péché. Et ça, c'est quelque chose qui l'a profondément touché. Alors ça fait écho alors avec la notion de salut, avec ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Et ce pouvoir extraordinaire qui est donné aux prêtres dans l'Église catholique, eh bien c'est quelque chose qui bouleverse certains musulmans, parce que c'est inconnu, ça n'existe pas dans l'islam. Les imams n'ont pas ce pouvoir.
Christian Mera, vous me racontez en préparant l'émission l'image que prend un prêtre copte égyptien qui s'appelle Zakaria Boutros, qui est assez connu au Moyen-Orient parce qu'il travaille à la diffusion donc, de l'annonce de l'évangile dans le monde musulman via une station qui s'appelle Al-Iyat. Il prend une image très parlante. Est-ce que vous pouvez nous la redonner? Une image qui aussi, vous me disiez, est pour beaucoup de musulmans tout à fait surprenante ou bouleversante. Quelle est-elle?
Il s'agit du père Xavier Boutros, qui, comme vous l'avez indiqué, est chargé d'une évangélisation, donc par voie de télévision, satellite, destiné surtout aux pays où l'islam est majoritaire. Alors le père Xavier Boutros illustre un peu ce problème de l'opposition entre miséricorde et justice. Dans l'islam, Dieu est miséricordieux. Et la miséricorde n'a pas du tout le même sens que pour le christianisme. Les infidèles sont exclus de la miséricorde de Dieu en particulier. Dieu, en même temps, est juge dans le christianisme. Comment concilier deux notions qui paraissent à première vue opposées, justice et miséricorde? Et le père Boutros donne une image. Cette image est la suivante. Il compare Dieu à un juge humain, qui se trouve devant donc une situation où il a à juger quelqu'un qui, en fait, ne répond pas totalement à la notion de justice dans son comportement. Mais en même temps, Dieu est miséricordieux. Et il donne donc l'image de Dieu Père qui, dans ce cas, va tout simplement payer la dette, parce que le péché qui ressort de la justice est une dette que l'on a vis-à-vis de Dieu. Et Dieu va se charger de payer la dette du péché. Et il le fait comment? Eh bien, en envoyant son Fils, qui va justement mourir sur la croix pour effacer la dette du péché.
Voilà pour le deuxième exemple. On va faire une deuxième pause musicale et puis dans la fin de cette émission, on va essayer de répondre peut-être à quelques questions que peuvent se poser certains auditeurs, ceux qui sont chrétiens et qui voudraient se lancer ou qui fréquentent des musulmans mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre, ou peut-être, puisque je crois qu'il y en a, de certains musulmans qui seraient familiers de cette antenne et qui aimeraient faire quelques pas. Bref, on parlera de ce qui va se dire, entre autres, lors de ce prochain forum Jésus-Messie, donc le 9 mars prochain à Pau, sur le thème « Comment évangéliser les musulmans quand on se sent faible ?» Thank you.
présence dans le Lauragais 97.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Zoom sur les forums Jésus-Messie, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, sujet bien délicat, celui donc de l'annonce de l'évangile aux musulmans. Et autour du plateau, donc, il y avait au début de cette émission Myriam, qui est une convertie de l'islam au christianisme. Avec nous, Christian Mira, qui est entre autres collaborateur d'une association appelée Notre-Dame de Kabylie, et Xavier Allois, cofondateur donc de ces forums Jésus-Messie. J'avais une question avant qu'on parle des choses promises avant la pause, c'est-à-dire donner quelques pistes pour les chrétiens ou les musulmans qui nous écouteraient. Xavier Allois, est-ce qu'il y a beaucoup de conversions de l'islam au christianisme? J'ai cru comprendre qu'il y avait des pays dans le Moyen-Orient, entre autres l'Iran, où les conversions étaient importantes, voire massives. Est-ce que vous avez des informations sur ce sujet?
Alors, j'ai effectivement lu quelques chiffres. Maintenant, c'est difficile de savoir la réalité de ces conversions. C'est vrai qu'en France, il y en a très peu, puisqu'on dans l'Église catholique, c'est moins de 300 baptêmes par an. Au Moyen-Orient, alors c'est vrai qu'on annonce des milliers ou des dizaines de milliers de baptêmes. En Iran, maintenant, c'est difficile de savoir exactement combien il y en a.
Est-ce qu'il y a d'autres...
Il y en a même directement beaucoup plus qu'en France.
Est-ce qu'il y a d'autres régions comme ça du Moyen-Orient qui sont connues pour être des lieux où il y a beaucoup de conversions au christianisme?
Alors, on parle de l'Algérie, hein, la Kabylie, également l'Égypte. Il y a aussi beaucoup de personnes qui quittent l'islam et beaucoup qui entrent dans le christianisme.
Voilà, donc ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Alors, je vous avais demandé pour finir cette émission de donner quelques éléments aux chrétiens qui auraient envie d'aller plus loin. Alors évidemment, ils peuvent aller à ce prochain forum donc à Pau. Je redonnerai les informations pratiques à la fin de l'émission. Mais pour les chrétiens qui nous écouteraient, qui vivraient dans des quartiers où il y a des musulmans, ou qui seraient même amis avec des musulmans, quels seraient les premiers pas que vous leur conseilleriez pour faire un pas dans cette direction? Ne faut-il pas tout simplement commencer par essayer de bien connaître l'islam?
Oui, bien sûr, il faut lire le Coran, connaître aussi bien sa foi chrétienne, et puis ne pas avoir peur d'annoncer. Souvent on nous dit qu'il faut se convertir soi-même, c'est vrai, qu'il faut tendre vers la sainteté, c'est vrai, mais il ne faut pas attendre que nous soyons saints pour commencer à annoncer, il faut le faire tout de suite. Et il faut essayer d'annoncer explicitement, même si, comme on l'a vu, Dieu intervient dans la vie de beaucoup de musulmans, comme dans celle de Myriam, mais il attend aussi que nous, les chrétiens, nous agissions, que nous disions les choses. Comme Sainte Bernadette nous disait, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais je suis chargé de vous le dire. Voilà.
Alors, est-ce que l'association, est-ce que les forums Jésus-Messie donnent d'autres éléments hormis cette exhortation? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une espèce de vademecum de l'évangélisation? Comment vous y prenez pour être après plus, on va dire, plus précis cet accompagnement?
Alors, c'est vrai que, il faut que nous annoncions, donc nous disions le kérigme dès que nous sentons que c'est possible. C'est-à-dire dire aux musulmans que Dieu c'est cet homme, qu'il est mort et ressuscité pour eux, et que même s'ils sont nés dans l'islam, c'est pour eux aussi. Donc voilà, la bonne parole, le salut, leur est destiné. À partir de là, il peut y avoir des objections, des questions, et nous devons nous former à savoir y répondre. Tout à l'heure, Christian a dit qu'il y avait des objections du type « les évangiles sont falsifiés » ou « Dieu ne pourrait pas être père ». Il faut que nous sachions dire du tac au tac, mais rien n'est impossible à Dieu. Donc Dieu, s'il veut avoir un fils, c'est possible pour lui. Ce serait un manque de foi de croire qu'il est limité et qu'il ne peut pas avoir de fils. De la même manière, dire que la Bible serait falsifiée, ce serait soupçonner Dieu de ne pas être capable de protéger sa parole. Donc finalement, Dieu ne serait pas si puissant, ce qui est choquant pour un musulman. Et puis si la Bible est falsifiée, il faudrait pouvoir dire quand, par qui, montrer l'original, etc. Ce qu'un musulman est incapable de faire. Et donc, un chrétien doit pouvoir répondre à ces objections, de manière rationnelle, pour faire réfléchir. Foi et raison. Voilà ce que nous disons, c'est aussi raisonnable. Et nous sommes capables de rendre compte de l'espérance qui est en nous, et c'est ce que nous essayons d'apprendre dans ces forums, pas seulement de dire qu'il faut annoncer explicitement. Je pense que c'est déjà un message qui est important, parce que souvent nous avons le défaut de vouloir témoigner uniquement silencieusement par des œuvres charitables, sociales. C'est très bien, il faut le faire, mais il faut aussi savoir parler, exprimer clairement que Dieu attend les musulmans et qu'il a donné sa vie pour, et qu'il attend leur réponse.
Voilà, sur un site, entre autres, des missionnaires de la miséricorde divine, qui sont donc des religieux dans le sud de la France, qui sont traversés dans cette intention qui est d'annoncer donc le Christ aux musulmans. On peut lire que, évidemment, les grands principes du témoignage auprès des musulmans, c'est évidemment l'amour, l'amitié. L'hospitalité aussi, précise-t-il, et l'honnêteté, le respect dans la relation. Pour les musulmans qui nous écouteraient, qu'est-ce que vous diriez, que conseiller à un musulman qui s'interroge sur la foi chrétienne? On sait que c'est potentiellement un vrai danger pour un musulman, puisqu'il n'y a pas de chose plus grave en islam que d'apostasier la foi musulmane. Quels seraient du coup les conseils que vous donneriez peut-être aux quelques auditeurs qui par hasard nous écouteraient et qui seraient de confession musulmane, Xavier Alois?
De demander à Dieu de les éclairer, de demander à Dieu de se manifester, de lire bien sûr l'Évangile, les Évangiles, le Coran, avec leur intelligence et avec leur cœur, et de demander dans la prière, avec insistance et avec humilité, où est la vérité, dans laquelle de ces deux paroles est-ce que Dieu est présent, est-ce que c'est dans l'Évangile ou est-ce que c'est dans le Coran. Et Dieu leur répondra, Dieu vous répondra, cherchez et vous trouverez, demandez, on vous donnera. Adressez-vous à Dieu dans le secret de votre chambre. Seigneur, où es-tu? Montre-toi à moi, Seigneur. Et vous aurez une réponse. Et vous aurez une réponse avec la grâce de Dieu qui pourra être celle que Myriam a reçue au début de l'émission quand elle parlait de sa prière toute simple à Jésus et à Marie.
Eh ben merci beaucoup Xavier Alois d'être venu au micro de Vivante Église donc pour parler de cette question délicate donc de l'annonce de l'Évangile aux musulmans. Je rappelle une dernière fois quelques informations pratiques. Donc ce forum Jésus-Messie a lieu le 9 mars prochain, c'est un samedi à Pau, sur le thème « Comment évangéliser les musulmans quand on se sent faible ?» Il sera présent entre autres Monseigneur Marc Hayé, évêque de Bayonne-Lescar et Oloron, connu d'une partie de nos auditeurs, mais aussi d'autres intervenants comme Joseph Fadel, l'auteur de ce best-seller Le prix à payer, ou Annie Laurent, que nous avions reçue il y a peu de temps, islamologue connu, ainsi que Mohamed Christophe Bilek, qui est donc, on va dire, le patron de l'association Notre-Dame de Kabylie, dont Christian Mera, très sympathiquement aujourd'hui, était le représentant. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h, ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.